Donc Genèse chapitre 47, page 60. Le Pharaon dit à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus vers toi. L'Égypte est devant toi. Installe ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans la région de Gozen. Et si tu sais qu'il y a parmi eux des hommes capables, confie-leur la responsabilité de mes troupeaux. » Joseph fit venir son père Jacob et le présenta au Pharaon. Jacob bénit le Pharaon. Le Pharaon dit à Jacob, « Quel âge as-tu ?» Jacob répondit au Pharaon, « Ma vie errante dure depuis 130 ans. Elle a été courte et mauvaise, et elle n'a pas atteint la durée de la vie errante de mes ancêtres. » Jacob bénit encore le Pharaon et se retira de devant lui. Joseph installa son père et ses frères. Il leur donna une propriété en Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la région de Ramsès, conformément aux ordres du Pharaon. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères, ainsi qu'à toute la famille de son père, en tenant compte du nombre d'enfants. Au verset 15, « Quand l'argent de l'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent trouver Joseph en disant « Donne-nous du pain, pourquoi mourrions-nous sous tes yeux ?» En effet, il n'y a plus d'argent. » Au verset 18, lorsque cette année fut passée, l'année suivante, ils vinrent trouver Joseph et lui dire « Nous ne te cacherons pas, Seigneur, que l'argent est épuisé et que nos troupeaux de bétail sont déjà en ta possession, Seigneur. Il ne reste plus rien devant toi, Seigneur, si ce n'est notre corps et nos terres. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres ? Achète-nous avec nos terres en échange de pain et nous serons au service du Pharaon, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin que nous restions en vie et ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas dévastées. » Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour le Pharaon. En effet, les Égyptiens vendirent chacun leurs champs parce que la famine les pressait. C'est ainsi que le pays devint la propriété du Pharaon. Au verset 24, « Vous donnerez un cinquième de la récolte au Pharaon, et vous aurez les quatre autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir, vous, vos enfants et les membres de votre foyer. » Ils dirent, « Tu nous sauves la vie. Si nous trouvons grâce à tes yeux, Seigneur, nous serons esclaves du Pharaon. » Joseph fit de cela une prescription, en vigueur aujourd'hui encore, d'après laquelle un cinquième du revenu des terres de l'Égypte appartient au Pharaon. Seules les terres des prêtres n'appartiennent pas au Pharaon. Quant à Israël, il s'installa donc en Égypte, dans la région de Gozen. Ils acquirent des propriétés, eurent des enfants et devinrent très nombreux. Jacob vécut 17 ans en Égypte et la durée de sa vie fut de 147 ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets ta main sous ma cuisse. » Et jure que tu feras preuve de bonté et de fidélité envers moi, en ne m'enterrant pas en Égypte. Quand je serai couché en compagnie de mes ancêtres, tu me transporteras à l'extérieur de l'Égypte, et tu m'enterreras dans le tombeau familial. » Joseph répondit, « J'agirai conformément à ta parole. » Jacob dit, « Jure-le-moi !» Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna à la tête de son lit.
En société, pourquoi parle-t-on de destin ? Pourquoi parler de destin ? Il y a essentiellement deux définitions, et on va les lire maintenant pour le mot « destin ». La première, puissance extérieure à la volonté humaine, qui selon certaines croyances régirait l'univers en fixant de façon irrévocable le cours des événements. La deuxième définition pour le mot « destin », enchaînement nécessaire et imprévu des événements qui composent la vie d'un être humain, indépendamment de sa volonté. Alors pourquoi utilise-t-on le mot destin dans le langage courant ? Est-ce que nos contemporains sont vraiment à l'aise avec l'idée qu'une puissance extérieure à la volonté humaine régirait de manière irrévocable les événements de notre vie ? Et même si on prend la deuxième définition, est-ce que les gens seraient à l'aise avec un enchaînement nécessaire d'événements de la vie indépendamment de sa volonté. Et pourtant, on entend le mot destin ici et là. même les inconnus. Manu, tu descends. Pourquoi ? C'est ton destin. Comme pour atténuer le terme, on va parler par exemple d'être maître de son destin, comme pour dire « je tiens mon destin entre mes mains ». Mais le problème demeure. Pourquoi parler de destin ? Si Dieu n'existe pas, si nous définissons nous-mêmes le cours de notre existence, pourquoi utiliser le mot « destin » ? Un des intérêts de la vie de Joseph, c'est qu'il nous place devant les deux faces d'une même pièce. Les êtres humains sont responsables de leurs actes, et en même temps, Dieu accomplit souverainement ses projets. Malgré notre difficulté à concilier les deux vérités, elles sont présentes dans le livre de la Genèse. Dieu accomplit souverainement ses projets, et les êtres humains sont responsables de leurs actes. Pensez à la vie de Joseph. On le voit, les frères de Joseph sont responsables d'un complot contre lui pour le faire mourir. Mais Dieu réalise ses projets. Joseph a rêvé que ses frères allaient un jour se prosterner devant lui et eux veulent détruire ses rêves, se débarrasser de lui et paradoxalement sont en train de réaliser ses rêves. Au-delà du destin de Joseph, on voit aussi un destin pour Jacob. Notez que à la fin du chapitre qu'on a entendu, il est surnommé à trois reprises Israël, autrement dit son destin, c'est aussi le destin du peuple dont il est le père. Quel destin attend Jacob ? On se souvient de la promesse faite à Abraham, à Isaac, à Jacob, promesse d'une terre promise, d'un peuple nombreux, d'une descendance nombreuse, d'une bénédiction pour les nations. Mais si la terre promise est Canaan, qu'est-ce qu'il fait en Égypte ? Pourquoi va-t-il terminer sa vie en Égypte ? Est-ce qu'il s'agit d'une sortie de route ? Quel destin attend Jacob ? Et la deuxième question, quel destin Jacob a-t-il connu ? Autrement dit, alors que la mort approche, ce sera l'occasion de porter un regard sur l'ensemble de sa vie et de faire le bilan, en tirer des leçons. Qu'est-ce qui a caractérisé sa vie ? Quel destin Jacob a-t-il connu ? Ce n'est pas seulement son destin qui va nous permettre de réfléchir, mais aussi le nôtre. Ce sera l'occasion de réfléchir aussi au nôtre. Et en particulier, ce sera l'occasion de réfléchir en termes de salut et d'espérance, parce que ce texte et la Genèse nous parlent aussi de salut et d'espérance. Quel destin attend Jacob d'abord ? On parle parfois de destin en termes de chemin. Certains se souviennent peut-être de la chanson de Céline Dion, « Tel est mon chemin ». je les mélange. « Tel est mon destin, je vais mon chemin ». Désolé Céline Dion pour la confusion. Et pourquoi le chemin ici de Jacob mène-t-il en Égypte ? Si la promesse qu'il a reçue concerne Canaan, pourquoi est-ce qu'il termine en Égypte ? Alors on pourrait l'expliquer par pur pragmatisme en disant que en Canaan, il n'y a plus assez de nourriture, il faut aller là où il y en a, c'est l'Égypte, et c'est normal. Mais pourquoi s'installer durablement ? Il sait que la famine doit durer 5 ans seulement, pourquoi s'installer pour 17 ans et mourir en Égypte ? Pourquoi est-ce que Dieu lui annonce, avant son voyage, la chose suivante, et je vous lis ce qui se trouve en Genèse 46, Dieu qui annonce à Jacob, « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas je ferai de toi une grande nation. Je descendrai moi-même avec toi en Égypte et je t'en ferai moi-même remonter. C'est Joseph qui te fermera les yeux. » On entend ici que Dieu va faire de Jacob, de sa descendance, un peuple nombreux, une nation en Égypte. Mais la question demeure, pourquoi en Égypte ? Pourquoi faire de Jacob une nation en Égypte et pas en Canaan. Et là, si on remonte encore un peu dans le temps, on se souvient d'une promesse faite à Abraham, que Dieu annonce à Abraham qu'il va avoir des descendants nombreux dans un pays étranger pendant 4 siècles et ses descendants seront esclaves, mais après 4 siècles, ils vont être libérés. Cette nation qui les rend esclaves va être jugée. Et en temps voulu, ils rentreront dans le pays de Canaan Là aussi, il fait preuve de patience vis-à-vis des Amoréens en Canaan, qui à ce moment-là seulement seront jugés. Et là, on entend que plusieurs peuples, les destins de plusieurs peuples vont se croiser. Les destins croisés à l'échelle d'une famille, ce qu'on a vu pour Jacob et ses fils, Joseph, ses frères, se retrouvent à l'échelle de nations. Dieu ne va pas simplement délivrer son peuple de l'esclavage, il va aussi juger la nation qui les a rendus esclaves. Dieu ne va pas seulement leur donner Canaan, il va aussi juger en temps voulu les Amoréens qui habitent Canaan. Dieu tient responsable de ses actes les êtres humains tout en accomplissant ses projets. Et notez que c'est à l'échelle de nations que tout cela se déroule, avec justice et bienveillance. Alors maintenant, si le livre de la Genèse pose des fondements pour comprendre notre espérance, notre salut, qu'est-ce que cette installation en Égypte va nous apprendre? Eh bien, imaginez quelques instants que le livre de la Genèse se termine avec le chapitre 46. Oui, ils ont eu faim, il y a eu une famine, mais au final, ils sont restés en Canaan. Toute cette famille de Jacob reste en Canaan et ils sont nourris et ils survivent à cette famine. On s'arrête là. Est-ce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments sur le salut et sur l'espérance avec ces premiers chapitres? Après tout, quand l'apôtre Paul parle de salut, quand lui il veut fonder la justification par la foi devant Dieu, qu'est-ce qu'il cite? Écoutez-le dans sa lettre aux Romains, Genèse 15:6, il cite « Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. » Un salut par la foi dans les promesses de Dieu. Est-ce que ça ne suffit pas? Est-ce qu'on avait besoin de plus que cela? Pour mieux comprendre le salut, oui, il va falloir l'exode. Et par exode, on entend plus que simplement le fait d'être libéré de l'esclavage en Égypte. C'est tout ce qui entoure cette libération. Qu'est-ce que ça va nous enseigner, l'exode? Qu'est-ce que ça nous enseigne au sujet du salut? Bien, pour commencer, l'exode nous enseigne que la condition dans laquelle nous naissons en tant qu'être humain, par nature, c'est celle, la condition d'un esclavage. C'est ce qui exprime le mieux notre relation au péché, aux idoles, notre incapacité à vivre de manière juste dans tous les domaines. L'Exode va aussi nous enseigner que la délivrance nécessite un jugement, une intervention de la part de Dieu. L'Exode va nous enseigner que le seul moyen d'échapper à ce jugement, qui pend au nez de tout être humain, c'est d'avoir un sacrifice. Le soir de la Pâque, un agneau sera sacrifié dans chaque foyer et grâce au sacrifice de cet agneau, ce jugement va passer au-dessus. Passer au-dessus, c'est le sens même du mot Pâque. Le jugement de Dieu nous est épargné grâce au sacrifice d'un agneau. Et on pourrait allonger la liste de tout ce que l'Exode va nous enseigner au sujet du salut. Une question pratique. Qu'est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui voudrait commencer à lire la Bible? Quelqu'un qui débute, qui veut en savoir plus sur le christianisme? J'imagine que naturellement, on va lui proposer de lire un évangile pour avoir un accès direct à la personne de Jésus, à la bonne nouvelle. Et ça a tout à fait du sens. Le mardi soir, on est toujours dans les évangiles. Mais si vous étiez là, il y a un an et demi, deux ans, quand Cindy s'est fait baptiser, on a eu l'illustration de quelqu'un qui, finalement, avait besoin d'autres textes, des textes antérieurs aux évangiles pour fonder une conviction. Pour elle, c'était en méditant la Pâque, la sortie d'Égypte, comprendre le sacrifice de Jésus à la lumière de ce qui s'était passé pour le peuple au temps de Moïse. Ici, on n'a pas développer toutes les raisons pour lesquelles Jacob s'installe en Égypte. Mais il y en a une en tout cas qui doit ressortir, c'est que cette installation en Égypte nous prépare à un thème qui va traverser la Bible, l'Exode. Le thème ici, il n'est pas très développé dans le chapitre qu'on a entendu, mais qu'est-ce qui nous apprend? Ce chapitre 47 met en évidence un contraste entre deux peuples. La famille de Jacob d'un côté, le peuple égyptien de l'autre. Mais aussi ses deux représentants, Jacob et le Pharaon. Dans la première partie du chapitre 47, on a entendu que, de manière répétée, que Jacob va pouvoir s'installer dans la partie de Goshen, la région de Goshen. Et cette région, elle est décrite comme ce qu'il y a de meilleur en Égypte. L'auteur souligne la providence de Dieu par l'intermédiaire de Joseph. Mais en même temps, on entend au verset 11 que cette région s'appelle aussi la région de Ramsès, qui rappelle que ce n'est pas leur pays. Dans la deuxième partie du chapitre, vous avez entendu le peuple égyptien qui vient vers Joseph pour obtenir de la nourriture. Et là, une différence majeure avec la famille de Jacob qui reçoit gratuitement par Joseph cette nourriture, eux doivent la payer. Les Égyptiens vont finir par s'offrir eux-mêmes et leurs terres pour payer cette nourriture, pour survivre. Quel contraste entre un peuple qui bénéficie de la providence de Dieu, avec une terre promise en vue, et un peuple qui perd sa terre et devient esclave du Pharaon. On a là comme un avant-goût de l'esclavage qui est notre condition en tant qu'être humain. Mais on voit aussi un contraste entre les deux représentants, Jacob et Joseph. Qu'est-ce qu'on peut dire de leur rencontre? En apparence, Jacob ne pèse pas lourd face à Pharaon. Pharaon n'est-il pas à la tête de la superpuissance de l'époque? Là où tout le monde accourt pour se nourrir? Jacob n'est-il pas immigré, âgé, survivant de la famine? Et pourtant, l'auteur ne dit pas que Jacob se prosterne devant Pharaon. C'est Jacob qui bénit le Pharaon, pas le contraire. L'auteur veut, semble-t-il, laisser entendre qu'il est source de bénédiction pour Pharaon. Malgré les apparences, Jacob n'a pas à être désarçonné face à Pharaon. Alors, quelle conviction lui permet de se tenir sans crainte, en sécurité, devant Pharaon? Est-ce que c'est peut-être le sentiment d'être quelqu'un de moralement meilleur que Pharaon? Ça ne devrait pas être le cas. D'une part, son nom rappelle qu'il a été trompeur, le roubleur, à plusieurs reprises, le roublard. Et d'autre part, son histoire de famille le rappelle. Non, il n'est pas moralement meilleur. Ce n'est pas très glorieux. Est-ce que c'est parce que Jacob a une vie plus facile, plus tranquille, et qu'il peut démontrer par sa vie que il est à l'aise? Jacob dit précisément l'inverse. Il affirme au Pharaon que sa vie a été errante, mauvaise et courte. Alors certains se diront, 130, c'est pas mal quand même, pour un chiffre 130 ans. Est-ce qu'il s'agit d'une autre manière de compter les années? C'est ce que certains affirment. Est-ce que c'est simplement le reflet d'une longévité à cette époque? Probablement. Mais quoi qu'il en soit, Jacob estime qu'elle a été courte par rapport à ses pères, Abraham, Isaac, qu'elle a été mauvaise et errante. Après tout, c'est la deuxième fois qu'il quitte Canaan. La première fois, c'est parce qu'il était menacé de mort par son frère. Ici, il a été menacé de mort par la famine. La différence, ce qui lui permet d'être en sécurité sans crainte devant Pharaon, ce n'est ni une plus grande moralité, ni des circonstances faciles. Et quant à nous, n'est-ce pas justement souvent les appuis qu'on a tendance à trouver quand on se retrouve face à quelqu'un? En présence de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, est-ce qu'on n'a pas tendance à s'appuyer sur une plus grande moralité? Ou alors, sur des circonstances de vie plus favorables, comme si c'était la démonstration qu'on est dans le vrai? Ce ne sont pas les appuis de Jacob et ça ne devrait pas être les nôtres. Jésus n'a-t-il pas dit « Heureux ceux qui se reconnaissent pauvres spirituellement » et nous, on prétendrait être moralement supérieurs? On ne devrait pas non plus se rassurer par des circonstances qui seraient plus faciles. Pourquoi? Parce que souvent, ce n'est pas le cas. Et d'autre part, elles ne sont pas un témoin fiable de notre relation à Dieu, de notre sécurité. Non, ce qui fait la différence pour Jacob, c'est la foi dans la promesse de Dieu. ce que Dieu lui a promis. C'est ça qui fait la différence. Et notez que c'est avec cette promesse en tête qu'il dit à Joseph, et il redit, et il le fait même jurer, il lui fait prêter serment, que Joseph le ramènera en Canaan. Parce que c'est ça, sa ligne d'horizon, son destin. Et si c'était notre ligne d'horizon, si c'était notre destin, si la promesse de Dieu habitait régulièrement notre pensée, si ce destin, notre destin, occupait notre esprit dans tout ce qu'on vit, dans nos projets, dans nos rencontres, c'est ce que Pierre dit aux croyants auxquels il écrit, qu'il décrit comme des voyageurs, des résidents temporaires. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens alors qu'il leur dit que leur corps va déclinant. Et Jean, comment est-ce qu'il rassure des chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi? Notez le langage de l'Exode dans cette vision de l'Apocalypse au chapitre 21, les versets 1 à 5. Puis je vis un ciel, un nouveau ciel et une nouvelle terre. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car ce qui existait avant a disparu. » Une nouvelle terre et Dieu qui habite parmi son peuple. C'est là la vision que Jean donne à ceux qui souffrent de différentes façons. Nous avons vécu un week-end magnifique sur le thème de l'intimité avec Dieu. Et ça a été l'occasion d'être interpellé sur ce besoin, ce désir d'être, de vivre dans cette piété, cet attachement à Dieu. Et il y a 2 ans, le thème du week-end, c'était le ciel, notre espérance. Ce serait tentant de faire avec nos thèmes de week-end comme une croix sur les sujets déjà évoqués, comme si c'est fait, c'est réglé, c'est derrière. Le ciel, l'intimité avec Dieu, et on passe à autre chose. Mais aujourd'hui encore, pour vivre notre piété, on a besoin de cette ligne d'horizon, on a besoin d'avoir en tête cette destinée qui nous attend, une nouvelle terre, dans la présence immédiate de Dieu. Quel destin Jacob a-t-il connu plus rapidement? Quel destin Jacob a-t-il connu? Lorsque quelqu'un voit la mort approcher, ou lorsqu'on sait qu'une personne approche de la mort, il arrive souvent qu'on essaie de repenser à sa vie, de voir les séquences de son parcours. C'est d'ailleurs ce qu'on fait à des funérailles, n'est-ce pas? On rappelle le souvenir de cette personne, de sa naissance jusqu'à sa mort. On essaie de voir peut-être quelques fils rouges qui ont des jalons dans son parcours. Qu'est-ce qui a caractérisé la vie de Jacob? C'est frappant de voir que les prophéties encadrent son existence. Alors que Jacob n'est même pas né, sa mère entend une prophétie au sujet de ses 2 enfants, ses 2 jumeaux qui sont en elle. Ésaü et Jacob. Et ici, à la fin de sa vie, on entend aussi, une prophétie, au chapitre 49 en particulier, Jacob prophétise sur ses fils à lui. Alors, quel est le destin de Jacob? Quelle destinée est-ce qu'il a connue? Ce qui a caractérisé la vie de Jacob, c'est une lutte permanente pour être béni par Dieu. Ce qui a caractérisé sa vie, c'est une lutte pour être béni par Dieu. Jacob lutte déjà dans le ventre de sa mère avec son frère jumeau. Et si Ésaü sort le premier, il le tient par le talon. On retrouve cette lutte pour être béni au moment où son père devrait bénir Ésaü, le premier-né. Mais Jacob se déguise pour se faire passer pour son frère, obtenir la bénédiction. Jacob luttera encore avec Dieu à Peniel pour être béni par lui. Oui, Jacob a constamment lutté pour être béni par Dieu. Alors, positivement, on pourra dire qu'il a vu la valeur d'une bénédiction de la part de Dieu. Mais il y a un mystère. Pourquoi lutter pour obtenir quelque chose qui lui a été promis. La prophétie est faite à sa mère que le plus grand, Ésaü, sera asservi au plus petit, Jacob. Si cette prophétie a été faite, pourquoi lutter ? Mais on retrouve les deux faces d'une même pièce. Dieu a souverainement accompli ses promesses et la responsabilité de Jacob a été engagée. Dans un sens, Jacob a lutté régulièrement contre ce qui semblait logiquement acquis, établi. Normalement, c'est le premier-né de la famille qui hérite d'une double part. C'est Ésaü qui devait l'hériter. Il est né le deuxième, il doit en être exclu. Mais il va lutter pour obtenir le droit d'aînesse. Il va lutter pour obtenir la bénédiction de son père. Et cette tendance à lutter à contre-courant des normes de l'époque se retrouve dans la bénédiction de ses propres fils. Normalement, c'est Ruben, l'aîné, qui doit recevoir la double part. Mais Jacob va la donner à qui ? Il va la donner à Joseph. Il fait de ses deux fils des héritiers à part entière. Cette lutte à contre-courant des normes se retrouve dans le choix de celui qui va régner sur ses frères. Plutôt que de choisir Joseph, il choisit Judas. Probablement parce que Judas s'est offert en échange de Benjamin pour préserver sa vie. On parle ici des luttes de Jacob. Mais on retrouve ce genre de lutte dans nos vies, n'est-ce pas ? Tous les jours, on entend parler de lutte. On entend parler de lutte contre les inégalités, une lutte contre la maladie, une lutte pour diverses causes, une lutte dans un monde marqué par des injustices, une lutte à laquelle on assiste ou on participe dans nos relations, une lutte dans le monde professionnel. Est-ce que ces luttes vont un jour cesser ? Est-ce que les injustices vont un jour être jugées ? Est-ce qu'on va goûter à la paix, au repos, à la bénédiction sans les luttes ? La lutte est récurrente chez Jacob, mais elle est présente aussi dans la vie de ses fils. On l'entend dans les bénédictions. Il y aura des luttes pour eux aussi. Mais il y a une bénédiction qui ressort du lot. C'est justement celle de Judas. On est là dans le premier livre de la Bible et Judas est décrit comme un lion qui sera triomphant, qui va être victorieux. La Genèse. Mais on retrouve ce lion de Judas dans le dernier livre de la Bible. Je vous invite à écouter cette vision-là encore de Jean. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à sept sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte : qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ? Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit : ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Le livre dont il est question symbolise l'ensemble du plan de Dieu, ses jugements comme ses bénédictions. Le problème, c'est que le livre est scellé et cette histoire ne s'accomplira pas à moins que ces sceaux soient enlevés, brisés. Et notez que Jean pleure. Pourquoi est-ce qu'il pleure ? Il pleure à la pensée qu'il n'y aura pas de justice dans l'univers. Il pleure parce que c'est la pensée que l'histoire n'a pas de sens, que Dieu n'est pas souverain. Mais les pleurs de Jean vont cesser lorsqu'il entend que le lion de la tribu de Juda va ouvrir ses sceaux. Le lion de la tribu de Juda renvoie naturellement à Jésus, de la lignée de Juda, de la lignée de David. Il est le lion victorieux, celui qui a vaincu, présenté aussi comme l'agneau qui a sacrifié sa vie. C'est par cette victoire-là qu'il a été victorieux. Et c'est par lui que les projets de Dieu vont se réaliser pour l'univers entier. Oui, Dieu accomplira ses promesses, justice sera faite, il accordera le salut à ceux qui ont placé leur confiance en lui. Notre désespoir ce soir pourrait venir de l'une ou l'autre raison, sentiment d'injustice qui perdure, désespoir qui vient d'une sorte de fatalité dans notre vie, désespoir d'une lutte dans un domaine ou l'autre qui paraît trop longue, trop dure. Mais le lion de la tribu de Juda a été victorieux et les projets de Dieu s'accompliront bel et bien. Bénédiction et jugement. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons, comme Jacob, porter nos regards sur cette promesse d'une nouvelle terre où la justice habitera. Attendre avec impatience cette présence immédiate auprès de toi. Nous voulons aussi d'ores et déjà, Père, te remercier parce que tes projets s'accompliront, quelle que soit notre condition présente, quelles que soient les luttes avec lesquelles nous vivons. Nous voulons porter nos regards vers celui qui est le lion de la tribu de Juda, qui a été victorieux, qui a vaincu, et par qui tes projets s'accompliront. En son nom, Amen.